Let's go, il fait beau, c'est Plume et Pinceau qui commence l'émission de bande dessinée de Canal B en compagnie de l'inénarrable Roger.
Bien. Alors là, moi, je dis bien. À un moment donné, j'ai eu peur. Je ne vous cache pas. Vous partiez. Vous donniez presque l'impression de ne pas savoir où vous alliez. Eh bien, non. Vous êtes fort bien retombé. Allez, c'est bien parce que c'est la dernière. Je dirais 15.
Oh, vous ramollissez.
Voilà.
Vous êtes fatigué.
Je suis fatigué. 15. Bon, allez, on ne reviendra pas là-dessus. Il y a eu de l'effort, on va dire.
457e émission, elle inaugure d'ailleurs notre nouveau cahier. Je vois que vous êtes en train de baptiser notre nouveau cahier qui nous sert voilà. Le journal de bord.
Tome 2, Plume et Pinceau, tome 2, voilà.
Tome 2, seulement. Pourtant, 457 émissions.
Ouais, comme quoi on en met sur un grand livre. Hein.
Ouais. Aujourd'hui, quoi dans les tuyaux ? Ben, de la chronique et de la musique. Et je dirais même de la musique et de la chronique.
Yep.
Voilà, et on commence tout de suite en musique alors. Jaco Garner. Psychédélisme de Jaco Garner, un morceau qui s'appelle Clear d'hier, et puis dans l'ambiance un peu écologique du moment, vous savez que nous allons gober des fumées qui nous viennent directement des feux de forêt du Canada, mon bon Roger.
C'est vrai, on va les gober nous aussi.
On a gobé, ouais, un petit peu. Alors c'était pas aussi impressionnant qu'à New York, mais quand même, on a gobé. Et le morceau s'appelle Clear the Air, nettoyer l'air. Je sais pas, ça m'est venu. Pouf, association d'idées.
Ça me fait flipper parce que ces grands incendies là me font penser à comment un ouvrage de science-fiction de John Brunner paru dans les années 50 où effectivement il imagine comme ça catastrophe écologique finale avec des incendies géants aux États-Unis.
Ouais. Ben il y a la route de Cormac McCarthy aussi qui est ouais. C'est une dystopie qui naît d'une espèce de gigantesque incendie, on ne sait pas trop ce qui l'a déclenché mais qui ravage le monde et il n'y a plus rien à bouffer à part nos semblables. Un bouquin très impressionnant. Il est mort il n'y a pas longtemps, le Cormac McCarthy. Bref, on est plus là pour parler de bande dessinée, de petit Mickey, j'ai envie de dire.
Ouais, mais pas forcément plus rigolo. C'est, ah.
D'habitude, c'est vous le rigolo de la bande.
Ouais, bah là, pas là. Et deux fois de suite en plus. Pourquoi ? Ah. Parce que Bicos, comme dit le professeur Buccella, un éminent confrère de la RTBF, Bicos, je sais pas pourquoi. Moi, l'été, pour moi, c'est les grands espaces qui se limitent en fait à la plage où je vais régulièrement pour essayer de finir de rôtir des deux côtés et j'emmène des BD à la plage. Aussi, je me suis fait une petite sélection de BD que j'aimerais bien emmener à la plage, si je ne les avais pas déjà lus, mais que je vous conseille d'acquérir pour pouvoir en profiter cet été, parce que l'été, rien de tel que de parler des Indiens. Aussi, allez, je vais vous en faire deux pour le prix d'un. Allez, parce que
je savais qu'il y avait un tourlou quand vous m'avez. Je commence, tu commences. Salaud.
Ah, j'aime bien quand, comment dirais-je.
Mais je me suis déjà fait avoir sur ce genre de plan. C'est ça qui me tue.
Mais en fait, essayez de voir quand il y a un lien. Quoi. Il y a bien Pocahontas, Indians de Monsieur Tiburcio G et ses amis.
Quoi,
bah ouais, ça sent le dossier.
Ouais, vas-y.
Voilà, on emmène ça à la plage, mais promis, je prendrai pas plus de temps pour les deux que pour un seul, aux grandes dames des auteurs et autrices.
Ils
mais
disaient
bon,
tous ça.
On commence par Pocahontas, parce qu'il est sorti un peu avant, de Monsieur Patrick Prugne aux éditions Daniel Maguen. On vous a déjà dit le plus grand bien qu'on pouvait de Monsieur Prugne, que nous rencontrîmes déjà à Quai des Bulles. Comment, moi, personnellement, j'adore son trait aérien, toutes ces vignettes qui ressemblent à des pastels, et qui nous montrent, et qui nous décrivent, parce que Patrick Prugne, lui, il est perdu dans le temps, ce monsieur, il est bloqué en Amérique du Nord. Au 15e, 16e siècle.
Début
en fait.
De la colonisation, c'est-à-dire pas du tout le pré-Far West.
Ouais, tout
le
à
pré-Far
fait.
West, on est plutôt dans les conquistadors, dans les.
Les Anglais, les Français.
Ouais, Jacques Cartier, tout ça.
Et donc,
et la rencontre avec les Indiens.
Ouais, il a écrit déjà plusieurs ouvrages, comment aux éditions Daniel Maguen, notamment Tomahawk, Iroquois, ah oui. Justement.
On l'appelle Iroquois dans le milieu. Hein, il est connu pour ça.
Pony, Frenchman, etc. Donc effectivement, c'est un monsieur qui s'est spécialisé sur cette période-là. Et Pocahontas, naturellement, tout le monde a vaguement entendu parler de Pocahontas, ne serait-ce que par l'adaptation qui a été faite de cette histoire-là par Walt Disney.
Exactement.
Or, il se trouve que nous, deux fois de suite, nous avons échoué au sud ou au nord de Londres, je ne sais plus, dans le village où est morte Pocahontas.
Exactement, oui, lors de deux voyages. Oui, c'est tout à fait. Mais c'est un personnage mythique. Justement de cette période-là, puisque Pocahontas va sauver en fait un groupe d'Anglais de la famine, quoi. Ils allaient tous crever la dalle, et elle fait partie donc des figures fondatrices, avec cette ambiguïté, un peu comme la Malène,
oui.
C'est-à-dire a-t-elle trahi finalement les
son
siens
peuple,
en étant altruiste ou en rendant service aux colonisateurs européens, quoi.
Ou amoureuse.
Ou avec une histoire d'amour potentielle,
bien sûr.
C'est un personnage très romantique.
Ouais, comme le dit l'auteur en quatrième de couverture, l'amour avait obscurci les pensées de ma sœur. En vous rendant vos épées ce jour-là, elle a oublié les siens. Je ne lui en ai pourtant jamais voulu, elle était aussi insaisissable que le vent. Et c'est un ouvrage magnifique.
C'est un biopic ?
Ouais. Moi, j'aime bien, Patrick Prugne, donc je ne suis pas... j'aime bien, j'adore le travail.
Il nous a jamais rien donné, promis.
Non, mais eux-mêmes ont du mal à... Vous savez que parfois, lui est déjà arrivé de manger ses chiens, comme nombre d'auteurs et d'autrices, donc non plus, quand même pas, en plus...
Je la connaissais pas, celle-là.
De ce fait, dans cette histoire, là, bon, là, c'est inspiré de la véritable histoire, parce que naturellement, Monsieur Prune est bien forcé d'inventer des dialogues, d'inventer
de boucher les trous,
d'inventer des situations, des scènes, etc. Et la narration, hein, on va découvrir par quel regard justement on voit l'histoire de Pocahontas. Le voit-on par les Blancs, le voit-on par les Indiens, le voit-on par Pocahontas même. Vous le découvrirez si vous faites l'acquisition de ce magnifique ouvrage, superbe pour l'été, quoi, je vous le dis. J'aurais dû faire marchand, moi. Je dis, on peut dire, il y a des habits pour l'été, il y a des habits pour l'hiver, et ben, il y a des BD pour l'été, et Pocahontas en fait partie, genre de BD qu'on lit en plein air. Pourquoi on les lit en plein air? Parce que on a l'impression de ressentir les grands espaces, si on est dans une prairie, ou la montagne, ou la mer, puisque...
Vous devenez lyrique.
Oui, voilà. Et puisque nous sommes dans les Indiens, le doublé,
et je vous l'avais même prix.
Et pour le même prix, l'ouvrage de Monsieur Tibur Sogé et ses amis.
Alors, on a déjà évoqué, on a passé une interview de Monsieur Augier.
Voilà, voilà, Augier.
Augier, pardon. Ouais,
et comment là, c'est aux éditions Grand Angle, comme la première fois avec Go West, vous vous rappelez ?
C'est ça, c'était l'interview pour de Go West.
Voilà, donc Monsieur Augier, donc, a embauché avec lui à deux occasions, donc pour Go West et pour Indian, toute une série d'auteurs et d'autrices, de coloristes, Armand, Astier, Bazin, Bertheil, Blanc-Dumont, Blasco Martinez, Derib, Gastine, donc vous voyez, il y en a des plus jeunes et des plus vieux, Irn, Jeff, Labiano, Loffray, Ménet, Rossi, Rouge et Toulouate. Donc du beau linge, des gens que ça ne fait pas peur de dessiner du cheval.
Hein, eh oui.
Et c'était lequel d'ailleurs qui est dans Indians qu'on avait interviewé, qui disait qu'il avait triché, qu'on l'avait dénoncé à Monsieur Augier d'ailleurs.
Ah, c'était, j'ai plus son nom, mais c'était le monsieur qui avait fait un biopic très intéressant
C'est pas Labiano
sur Jesse James.
C'est pas Monsieur Labiano.
Non, laissez-moi 5 minutes et je vous retrouve ça.
Voilà, on va le redénoncer parce que parfois il paraît qu'il masque ses chevaux dans la
avec
poussière.
De la poussière.
Et on avait passé l'interview, c'était très rigolo parce que des chevaux, vous allez en avoir. Alors de la même manière que Go West, non. On voyait, vous vous rappelez, l'itinéraire d'une montre en or. Eh bien là, c'est terrible, quoi. C'est l'itinéraire du peuple indien, de la nation indienne.
Christophe Regnault.
Eh ben voilà.
Christophe Regnault, ouais.
Voilà.
Dans la collection Une véritable histoire du Far West chez Glénat, si je me souviens bien.
Voilà.
J'ai retrouvé notre émission.
Eh ben, il n'est pas dans le tome là, à mon avis. Monsieur Augier a dû le punir.
C'est peut-être lui qui a fait la couverture. Il est aussi très sollicité pour les couvertures. La couverture de Jesse Zem, par exemple, était vraiment épique, quoi. C'est sûr qu'il c'est pas non plus un débutant. Il triche un peu avec la poussière, mais quand même, il dessine bien.
Et avec la typo Indian, on ne peut pas s'empêcher de penser au bécan. Comment Harley Davidson, c'est assez.
Alors là, il y a un fil conducteur comme l'histoire de la montre ou pas ?
Plus ou moins évident, moins transparent qu'avec la montre qui passait de main en main. Mais on a toujours Monsieur Tibur Sogé au scénario et avec tous ses amis qui vont illustrer les différentes séquences de cet album. Et ouais, c'est terrible quand même. C'est assez terrible.
C'est l'histoire du peuple indien.
Bah ouais. De toute façon, il nous le dit. Hein, il nous le dit. À la fin de l'ouvrage, en 2 siècles de confrontation, plus de 1200 combats opposeront Indiens et Européens. Les rivalités entre tribus les empêcheront bien souvent de faire front commun face à l'envahisseur qui utilisera cette faiblesse. En 1892, la population amérindienne d'Amérique du Nord n'est plus que de 243 000 individus. Des 300 langues et dialectes existants, seul le Navajo et le Sioux sont encore parlés couramment. Entre 1778 et 1871, plus de 370 traités seront signés avec les tribus indiennes. Aucun ne fut respecté par les Blancs, mais à travers eux, 400 millions d'hectares furent pris aux peuples autochtones en seulement 90 ans. Pourtant, au bout du compte, l'homme blanc a-t-il réellement gagné, se demande Monsieur Derib. Augier, pardon. Donc, vous imaginez bien que c'est quand même pas fun, vous connaissez mon côté fleur bleue, mais comme ce sont des petites séquences, si vous voulez, la douleur, c'est comme une... Pouf, on a un flash de douleur, puis après on recommence avec une autre histoire. Et Monsieur Augier a l'intelligence, c'est comment dirais-je, d'alterner, c'est-à-dire qu'il y a des histoires qui sont plus ou moins tragiques et des histoires qui le sont moins, tout en étant aussi spectaculaire. À mes yeux, la plus spectaculaire. Puis il y a du boulot, à mon avis, il s'est vraiment renseigné sur la façon dont les. dont les Indiens vivaient, etc., leurs coutumes. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'histoire de Buffalo Jump, dessiné par Monsieur Corentin Rouge, que je ne connaissais pas. Et c'est une histoire de dingo. La façon qu'ont les Indiens, alors là, ils n'ont pas encore le cheval. Hein, c'est un peu avant qu'ils puissent domestiquer le cheval. Et on les voit attaquer un gigantesque troupeau de bisons. Et comment ils font? Parce que, ils n'ont pas de chevaux, donc ils vont vachement moins vite. En fait, ils les entourent, ils se déguisent avec des espèces de peaux de chacal qu'ils ont sur la tête. Ils rampotent, ils rampent. Ils les cernent. Ils jettent tout un tas de javelots qui sont plus ou moins inopérants, sauf que ça déclenche la panique chez les bisons. Et il y a un Indien qui, lui, s'est planqué à l'opposé des bisons et qui, par ses cris, etc., va les inciter à le suivre. Et effectivement, ils le suivent. Et arrivé en bout de course, vous savez ce qu'on découvre?
Il les jette dans un ravin ou un truc
comme ça. C'est un putain de ravin. Et l'Indien...
Il saute à la Indiana Jones au bout d'une corde. Et ça, c'est inspiré d'une vraie pratique.
Tout à fait.
C'est une histoire de dingue.
Et c'est une histoire de dingue.
C'est l'histoire d'une chasse.
Voilà.
De ces chasses où on voit
effectivement, les bestioles, elles tombent dans le fond du ravin. S'il y en a beaucoup qui tombent, ils le disent.
Très chouette.
Ouais, quand le grand esprit était favorable, il y avait alors de quoi nourrir toute la tribu pendant une saison au pied de la montagne.
Ouais.
C'est totalement hallucinant. Vous aimez les Indiens, comme moi, vous aimez l'été, vous aimez bien aller à la plage au soleil. Aussi, vous ferez l'acquisition de Indians, l'ouvrage collectif dirigé par M. Tibur Saugé et réalisé avec ses amis et M. Patrick Prune pour Carantas.
Pouf. J'intervertis, je pensais chroniquer autre chose, mais en fait j'ai aussi un western, alors je pense que c'est le moment de le placer. Et puis il y a des apaches dans mon western.
Bon, c'est bien.
Ça s'appelle Hacendado, l'honneur et le sang. Gilles Mézémo au dessin et au scénario, c'est Philippe Thirault. Ça paraît chez Glénat. C'est un western aussi. Ça se passe au Mexique, en fait. On est en 1863. On est dans un état où il y a des grandes haciendas, tu sais, des grands propriétaires qui sont des fois les héritiers, en fait, des conquistadors. C'est par exemple le Don Armando, un riche hacendado. Hacendado, c'est un propriétaire d'hacienda. Donc, tu vois, c'est un propriétaire terrien. On va suivre donc l'aventure de ce type qui a hérité de l'Espagne ce côté très rectiligne, tu vois, très 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 droit dans ses bottes, très les donnes. Tu vois, il y a un côté vraiment martial, culturel, le sang, l'honneur, c'est hyper important. Donc c'est un type, disons, sous des dehors bourru, il est bourru parce qu'il obéit vraiment au code d'honneur de son statut, de son rang social.
Une main de fer dans un grand acier.
Exactement. Et là, on va voir justement cette rectitude morale s'infliger, condamner le propre fils du Don par son père, parce que lors d'une soirée, alors qui est vraiment le nœud de l'histoire, une soirée, on va dire, agitée, le fils se retrouve accusé de meurtre, d'avoir assassiné une nana, et du coup son père, pour le punir et venger l'honneur de sa famille, va l'abandonner dans le désert, déclenchant la colère de sa mère qui va se lancer à sa poursuite. Et dans le désert à cette époque-là, il y a les Apaches. Et puis, il y a aussi une bande d'affreux, mais vraiment d'affreux, qui sont des espèces de mercenaires Wagner engagés pour chasser l'Apache. Ils doivent ramener des têtes, tu sais, et prouver ainsi qu'ils ont bien œuvré. Et cette histoire donc d'honneur familial, cette suspicion sur que s'est-il passé cette nuit, est-ce qu'effectivement le fils a vraiment commis ce meurtre, les Apaches et puis donc ces tueurs froids, toutes ces histoires vont se télescoper, et ça te donne vraiment un récit hyper dense. Et j'ai vraiment retrouvé, et je crois que de toute façon que c'est voulu, vraiment ça te renvoie à des histoires à la Blueberry qui sont bien plombées comme ça, tu sais, style La mine de l'Allemand, tu sais.
Encore La mine de l'Allemand perdu, il y a un peu d'humour parce que le personnage est un peu foldingue.
Ouais,
tandis que là, dans votre histoire, ceux qui ramènent les têtes des Apaches.
C'est une tragédie, je veux dire. Il y a une hécatombe de personnages. Mais c'est vraiment bien fait. Et graphiquement, et je dirais vraiment même un peu dans la manière de raconter et dans l'espèce d'ambiance vraiment presque surnaturelle par moment, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent dans le désert. C'est vraiment un récit très très dense, et j'ai vraiment trouvé ça super bien. Philippe Thiriot, il avait collaboré, je ne sais pas si tu te souviens de cette série, avec Steve Cusor sur Oh Boys. Lui aussi, il tient
si,
bien les
si,
Amériques.
Si, je me rappelle d'Oh Boys.
Ouais, il tient bien, c'est une des preuves qu'il tient bien le monde de l'Amérique. Et Gilles Mesomo, au dessin, je dois avouer que je ne le connais pas trop. Je crois qu'il est passé par Spirou. En tout cas, il se met dans les pas de Giraud, hein, de Blueberry. À mon avis, ça a dû bercer son enfance. Et ça vous fait vraiment une aventure impitoyable au cœur du désert mexicain. Ça s'appelle Hacendado, Tierro Mesomo. Ça apparaît chez Glénat et l'honneur du sang, tout est dit dans le sous-titre. Interlude musicale, mec.
Yep.
Programmation à Roger. Dick Dell.
Ouais.
Les Dell Tones.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
José, je dirais le Sirtaki de Dick Dell.
Eh oui, oui, parce que c'est comme un morceau qui, à l'origine, ce morceau-là, qui a été repris par dans la bande originale de Pulp Fiction, bien sûr, tout le monde aura reconnu. C'est un morceau traditionnel grec.
Eh oui, un peu speedé, mais c'est ouais. Exactement ça. Est-ce que tu veux que je te parle d'un phallus?
Dit comme ça.
Un phallus célèbre.
Le phallus de Rasputin.
Exactement, vous avez vu la couve. Exactement. Ouais. En fait, l'histoire commence, on est à Saint-Pétersbourg en 2016, et il y a trois adolescentes pas très malines, hein, plutôt branchées réseaux sociaux, si tu vois ce que je veux dire, qui sont dans le musée de l'érotisme de Saint-Pétersbourg, et elles sont en train de faire les connes devant un phallus qui est conservé dans le formol. Tu vois, plutôt un calibre 12, quoi. Plutôt vraiment façon gros gabarit. Donc elles font un peu les cons devant et il y a un type qui les interpelle et les rappelle à l'ordre en leur disant qu'il faut respecter ce phallus parce que c'est le phallus de Rasputin. Et comme elles sont sottes et qu'elles connaissent rien, il va se lancer dans qui était Rasputin. Et ça donne l'occasion après d'un biopic en fait sur le personnage. Alors Rasputin, lui aussi dans le genre, c'est comme Paco Untas, c'est des personnages mythiques. Alors lui, il a vraiment existé, on en est sûr. Je sais pas si finalement Paco Untas aussi. Il y a vraiment, notamment sur sa mort, il y a tout un tas de légendes qui traînent. Et donc on va découvrir le personnage. Alors c'est Rasputin, c'est un surnom. Ça veut dire le dépravé. C'est un Sibérien, une espèce de paysan mystique guérisseur qui apparemment avait un regard il était très doué en hypnose parce qu'il avait un regard très impressionnant, qui a réussi à s'imposer, à en arriver à murmurer à l'oreille des Romanov, quoi. Parce que guérisseur qu'il était, magnétiseur qu'il était, hypnotiseur qu'il était, il a réussi plusieurs fois à guérir des crises du grand-duc héritier. Les Romanov sont atteints d'hémophilie, comme tu le sais.
Ouais, et il était réussi... surtout hémophile. Ouais, et c'était l'héritier du trône, puisqu'à cause de cette connerie... Quoique, chez les Russes, les femmes avaient le droit d'être appelées à régner.
Oui, 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 mais c'est une tare des Romanov, partagée notamment par le grand-duc. Et comme il a réussi à sauver le fiston, la maman est tombée en adoration devant Rasputin, et du coup il a l'oreille des Romanov, et notamment dans l'année décisive qui va être celle de 1916, où il va être assassiné. Donc en fait, on va vivre la chute, on va dire, de Rasputin, parce que c'est un type qui est sans manière, quoi, qui revendique venir du peuple. C'est une espèce de mystique assez dépravé, d'où son surnom. C'est pas le dernier pour boire un coup, retrousser des jupes, etc., etc. Il a une cour, hein, il a vraiment une cour. En plus, il est bien doté, calibre 12. Donc il a vraiment du succès. Il a des adeptes. C'est vraiment une espèce de gourou. Il est à Saint-Pétersbourg. Il a l'oreille du tsar. Il a des idées qui choquent pour l'époque, puisqu'il est assez, il est très ouvert à l'homosexualité. Il est très ouvert aussi aux juifs. Il est contre les pogroms que la main noire, par exemple, développe. Donc il a plein d'ennemis. Et on va voir donc le complot qui va le faire assassiner. Et les instants de sa chute sont accompagnés. Alors, de la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est qu'au début du tome, quand on commence à nous raconter un peu qui est Rasputin, on le voit surtout à un moment où il rencontre un personnage hyper intéressant, Alyssa Rosenbaum. C'est une petite fille qui vient en fait le voir et lui faire la morale. C'est un peu comme Don Juan face au commandeur, tu vois. Boum, la rencontre...
Elle vient d'où cette gosse là?
Elle habite Saint-Pétersbourg, elle vient pour faire la morale et demander à ce que Rasputin justement utilise son pouvoir pour sauver son père qui est un scientifique juif, mais dans les périodes de la guerre, l'antisémitisme en Russie c'est quand même devenu, c'est toujours peut-être une passion nationale. Elle vient lui demander en fait de sauver son père qui a été envoyé dans un camp quoi. Et elle fait ça en lui rappelant finalement ses obligations quoi, morales, puisqu'il a l'oreille et qu'il se veut le défenseur du pauvre et des opprimés, qu'il aille jusqu'au bout, il a l'oreille du tsar, qu'il agisse quoi. Donc elle est intéressante parce que donc elle va réapparaître tout au long du récit, où on suit donc la chute de Rasputin, et vraiment comme une espèce de Jiminy Cricket quoi. Et en fait cette nana elle a vraiment existé. Et presque, c'est son histoire à elle qui est la plus intéressante, parce qu'après la mort de Rasputin, on lui consacre les dernières pages. Et alors, elle va fuir aux États-Unis, et elle va devenir assez célèbre, sous le nom de Ayn Rand. Elle a travaillé, par exemple, beaucoup à Hollywood, elle a fait des tas de scénarios, par exemple, pour Cecil B2000, et elle est porteuse d'une philosophie qui est vraiment très américaine, en fait, qui s'appelle l'objectivisme. C'est pas du libertarien, mais c'est vraiment du libéralisme. Ça a vraiment imprégné. Reagan était très fan de son travail philosophique, tu vois, par exemple. Brisbane aussi. Elle a vraiment imprégné et diffusé ses idées libérales et très
libérales. C'est peut-être pas ce qu'elle a fait de mieux.
Non, non, non. C'est un personnage très controversé. Hein, mais tu comprends aussi cette rigueur et il faut que les individus fassent leurs preuves de toute façon parce que elle était profondément athée. La réponse viendra pas de Dieu. Le collectivisme, elle y croyait pas. Tu vois, elle était en Russie. Tu vois vraiment comment ces années de jeunesse qu'on voit aussi à travers donc l'histoire de Rasputin qui nous a raconté là ont formé cette pensée. Et presque, je trouve que ça aurait été si je puis me permettre, l'album est très bien, mais c'est presque le personnage le plus intéressant par rapport à Rasputin que tu connais quand même pas mal. Alors c'est fait par deux Espagnols, Hernán Migallo et Manolo Caro au dessin. Et alors, ce type a fait beaucoup de BD érotiques et pornographiques, et c'est vrai qu'il y a de la chair aussi dans cet album. Il y a des scènes coquines, mais il n'y a pas vraiment de scènes pornographiques. Mais Rasputin, il fallait quand même justifier sa réputation de noceur et de trousseur de jupons, donc il y a quelques scènes un peu olé, olé, mais tout à fait acceptable. Et c'est vraiment un très chouette dessin, très espagnol. Très espagnol. Et je trouve en plus que la couve est hyper réussie. Le regard de Rasputin...
Très inquiétant, et les yeux rouges.
Ouais, vraiment. Et t'as vu cette scène en bas?
Ouais.
Très, très soviétique déjà dans l'art, hein, de représenter les personnages en allant de l'avant, cette cape rouge, etc. Et si tu regardes bien, il y a une petite fille là.
Et c'est celle-là.
Et c'est la fameuse Alyssa Rosenbaum. Vraiment, c'est un très très chouette album. Et puis un calibre de 12, ça se respecte hein, quand même. Hein. Et donc c'est.
Et c'est en un tome.
Ouais, une révolution nommée Raspoutine chez les éditions Glénat. Voili, voilà pour
oui,
moi.
Glénat, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Est-ce que j'ai noté ? Oui, j'ai noté.
Dans notre nouveau grand cahier.
Voilà. Eh ben, écoutez, vous m'avez invité, puisque c'était un ouvrage quand même assez copieux hein, dont vous avez parlé. Vous m'avez invité à en parler deux pour
allez,
le prix d'un,
deux.
Encore une fois.
Chez Roger, c'est les soldes en ce moment.
Allez ! Enfin, c'est aussi... j'ai une raison. Pourquoi ? Pourquoi ? Because...
Votre sac est plein.
Ouais, hein, mon sac est plein et mon dos est vieux. Et ces deux ouvrages, parus aux éditions Delcourt, extraits de la collection Les Reines de Sang. On a déjà parlé hein, de cette collection-là, qui a publié déjà de nombreux ouvrages, hein, parce que des Reines de Sang, il y en a plusieurs. Il y a Aliénor d'Aquitaine. Catherine Sforza, Catherine de Médocis, Cléopâtre, Frédégonde, Isabelle la Louve de France, Jeanne d'Arc, vous voyez, Njinga, mon micro en tombe. Donc il y en a, il n'y a pas que les hommes hein, qui ont
pu aussi...
En fait,
c'est des femmes qui, à un moment, mine de rien, ont joué un rôle politique.
Voilà, qui vont prendre le pouvoir, qui vont parvenir à prendre le pouvoir, ou pas, d'ailleurs, mais qui sont rentrés dans l'histoire de par leur action et l'unité qu'elles ont su créer derrière elles. Finira de manière tragique, hein, comme Jeanne d'Arc. Et on va commencer tout de suite avec Boudica. Alors Boudica, moi je l'aime bien parce que c'est une Anglaise qui trône sur un espèce de char de combat sur le grand pont qui enjambe la Tamise à côté, à deux pas de House of Parliament.
Exactement, il y a une statue.
Et c'est Boudica. Alors Boudica, là, elle est représentée sur cet ouvrage sous les traits d'une somptueuse rousse.
C'est une celte. Hein.
Ouais. Il y avait des blondes hein, et des brunes aussi.
Rousse, c'est bien. La couverture est très jolie.
Elle est contre un chêne et derrière elle rôde une horde de loups, métaphore peut-être des Romains. Pourquoi pas ? Parce que quand Boudica naît, eh bien, les Roms est déjà installé sur l'île. Ils vont envahir l'Angleterre, mais ils s'arrêteront un peu avant l'actuelle frontière avec l'Écosse, parce que au nord, c'est les Pictes et eux, ils sont dingues. Ils sont dingues et
ils se peinturent en bleu.
Les autres en dessous aussi. Mais comme les autres, ils sont à poil tout le temps par -20 degrés. Les Romains disent non, ils ont plus rien de commun avec nous, donc ils vont construire une muraille et on ne bouge pas. Je crois que c'est le mur d'Adrien, je crois.
Tout à fait, Roger.
Et puis, on va déjà empêcher les Pictes de descendre, ça sera déjà pas mal. C'est un peu l'équivalent comme les Germains, hein, ils avaient construit des limes aussi le long de...
Le limès.
Ouais, des limès pour se protéger des Germains. Et Boudica, elle vit déjà en territoire conquis. Mais il ne faut pas voir l'Empire de Rome comme étant une espèce de truc protéiforme. Quand on fait partie de l'Empire de Rome, on peut encore conserver, surtout au début de l'Empire, une sorte d'autonomie, des cultes particuliers, parce que les Romains étaient pas chiants. Hein. Avec les cultes, ils n'en avaient rien à battre. Souvent, ils les volaient, d'ailleurs. Quand ils s'emparaient d'une région, ils volaient les dieux, ils les ramenaient à Londres, et parfois à Rome, pardon, et ça devenait comme il y a le culte d'Isis, par exemple, à Rome.
Avec les Celtes, je croyais qu'ils n'avaient pas été... Avec les druides, ils
C'est avec
été...
les druides. Hein. Les druides, c'est pour autre chose, parce que la limite,
les
druides...
C'est toujours les écologistes qui prennent.
Ouais, les druides, ils auraient fait que fumer du houx et bouffer du gui, on leur aurait pas trop rien dit. Déjà, ils seraient morts. Mais c'est surtout parce qu'ils étaient à la base de l'identité celte et de l'identité des velléités nationalistes, pourrait-on dire, et indépendantistes de ces fameuses tribus. D'autant que les Romains, certains gouverneurs romains, vont se comporter comme des confinis, et notamment un, le gouverneur de Londres, Lugdunum, qui va se faire fort de vouloir prendre des terres à une tribu alliée, la tribu du papa de Boudica, parce qu'elle a véritablement existé à Boudica, c'est pas
et
une légende.
Touche pas à son père.
Et elle était mariée, elle avait déjà eu deux filles, et ça va se terminer en eau de boudin, dans le sens où ils en parlent pas encore dans la BD, parce qu'on est encore qu'au premier tome, mais en fait les Romains vont
débarquer. C'est pas des one-shot.
Non, c'est pas des one-shot, non. Parfois il y en a deux, parfois il y en a trois. Il y en aura au moins deux, en tout cas pour Boudica. Et en fait, il y a le gouverneur qui débarque dans le village de Boudica. Il bute tout le monde, il prend une partie des terres, il fait violer Boudica. Non, il fait fouetter Boudica et violer les deux filles de Boudica par les hommes de la Légion 12, la meilleure. Donc, Boudica survit, elle et ses filles survivent à, comment dirais-je, à la violence de leur agression, etc. Mais vous imaginez bien qu'elles sont un peu vénères. Et comme Boudica, il se trouve, est une fille de roi, une fille de chef, alliée certes avec les Romains, mais qui, bah, il a eu bien tort finalement, il a été bien mal récompensé de son alliance avec les Romains, eh bien elle va réussir, à façon Vercingétorix, à unifier les tribus celtes dans le but de chasser les Romains. Et je ne sais pas si le tome 2 va parler de ça, mais effectivement, le pouvoir romain va trembler et la ville de Londres, Lugdunum, va être rasée. Tout. Boudica et ses amis vont débarquer, ils vont tout péter. Et on peut dire que Rome a eu particulièrement la main lourde, très lourde, trop lourde, et que effectivement, il porte la lourde responsabilité de la révolte de Boudica.
Donc on va nous raconter la révolte de Boudica en deux ou trois tomes. Ok.
Voilà. Et restons dans le roman en jupette, mais cette fois-ci plus loin, plus oriental, dans ce qui reste dans l'Empire romain, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient, avec Théodora. Alors Théodora, je connaissais deux noms, je ne connaissais pas trop son histoire. Théodora, elle, n'a aucune ascendance noble, et elle ne va devoir son ascension au sein du royaume romain d'Orient qu'à son intelligence, son pragmatisme, capacité d'adaptation et et un corps à damner un saint, qu'il soit de sexe mâle ou femelle, puisque vous savez que c'était une des grandes questions des Byzantins. Et la mère Théodora, on peut le dire, elle est sacrément bonasse. Et lorsqu'elle danse, les nobles romains d'Orient oublient même comment ils s'appellent. Faut dire qu'on a affaire un petit peu à l'espèce de notable, un petit peu en bout de course, hein, vous avez vu, espèce de gros, gris, gras, gros, vous voyez, un peu minable. Et Théodora, lorsqu'elle danse, ça leur chauffe un petit peu la braguette, vous voyez, genre. Mais en même temps, c'est une, on le voit tout au long de ce premier tome, c'est une jeune femme à qui il va arriver plein de malheurs, quoi. Véritablement, son chemin ne va pas être véritablement...
Elle va avoir un destin politique ?
Alors justement, ça, je pense, si je dis pas de bêtises, que elle finira même impératrice de Byzance. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, avant la charrue de l'empereur. Limitons-nous là au premier tome. Alors moi, ce que j'aime bien dans cet ouvrage, ils sont mis un paquet. Ils étaient quatre pour non, trois. Pourquoi il y a quatre noms et que sur la couverture et seulement trois sur le dossier? Ah ben voilà. En fait, le scénario nous le devons à France Richemont et Stefano Ascari, le dessin à Andrea Riccadonna et les couleurs à Angelo Iozza. Pour les studios Arancia. Bref, il y a plein de monde, quatre, c'est bien ce que je dis, qui s'y sont mis. Et l'univers, moi, je trouve l'univers particulier d'une ville comme Byzance et des villes de l'Empire romain d'Orient sont bien montrés à travers l'itinéraire et les errances de Théodora qui, de jouet des puissants, va finalement... finir par embarquer le gros lot. Les reines de sang, Théodora, la reine courtisane, deux tomes, c'est marqué, ils sont Delcourt, et Boudica, la reine celte, trois tomes parus, il y en a déjà un.
Karl Barat and the Jerkals.
My friend and your
Sur les fusillés 17, si je me trompe pas. Carl Barat, l'ancien des Libertines, and the Jackals, Glory Days. Ouais, très chouette morceau. C'est vous qui m'avez fait découvrir ça.
Ouais, ouais, j'aime bien ce morceau-là aussi.
C'est vous, c'est moi, c'est vous.
Allez, comment allez-y, parce que j'ai été long tout à l'heure avec
okay.
mes
Allez, une petite. Allez, un avenir radieux. Non, je déconne.
Bah oui, j'entends ça, mauvais surpris. Allons-y.
Allez, partons. Proposition japonaise. L'humanité désormais, considérablement réduite.
Pourquoi ?
Ah bah parce que on a foutu le bordel, hein. On a tout bien niqué. On a tout bien niqué la planète et donc
Godzilla, non,
on a tout salopé. Greta Thunberg pas été écoutée. Gros bordel. Fin du monde. Écroulement des civilisations. Ou presque, hein, y a quand même une espèce d'église qui règne sur le monde qu'on va nous proposer. Et cette église base tout son discours sur le Common Braid. C'est ça le titre de ce manga.
Le pain commun ?
Ouais, c'est ça. C'est une espèce de barre multivitaminée, là, protéinée, etc., etc., que les gens mangent. C'est la seule nourriture à laquelle ils ont accès. Et l'église, qui, on comprend bien, essaye de garder un peu d'ordre social dans tout ça, vraiment en fait le sang du Christ, quoi, quelque part. On pourrait comparer ça comme ça. Et on va suivre les aventures de Haruka, donc une nana qui vit dans ce monde et qui se nourrit de Common Bread, mais qui a un souvenir d'avoir une fois goûté un curry. Et en fait, donc, elle explore les ruines du monde dans lequel elle vit pour essayer de retrouver des objets qu'elle deal. Après, elle vit de ça. Enfin, elle les échange contre d'autres choses. Tu sais, elle a trouvé des briquets. Est-ce que ça t'intéresse ? On est vraiment dans une espèce de débrouillardise pour survivre. Et elle, en même temps qu'elle va dans ses expéditions, elle essaye de retrouver des traces d'une autre alimentation que celle que l'Église essaye de lui imposer. Donc, on va suivre les aventures de ce personnage, donc Haruka. C'est prévu pour 4 tomes. Le premier, c'est celui de la mise en place. Donc, on découvre à la fois donc cet univers, et puis on découvre le style de Majuya, l'auteur, qui vraiment, à mon avis, fait référence à Blême de Tsutomu Nihai, parce qu'il y a un soin apporté au décor, je trouve, qui est vraiment qui fait la filiation. On a des grandes architectures et en même temps des pèlerinages désertiques. Haruka a une espèce de pistolet et elle se sert, c'est pour dire comment le Common Bread, ça peut être vraiment une espèce de grosse saloperie, parce que le Common Bread, ça peut exploser aussi. On te nourrit avec ça, mais ça peut exploser.
Ah ouais,
donc on voit des scènes où elle se défend, parce que dans ses expéditions, elle trouve des mutants, des brigands, des robots, elle rencontre tout un tas de vilains divers et variés. Et pour se défendre, des fois, elle utilise ce truc-là. Et en fait, l'histoire là, dans ce tome, va à mon avis se lancer, parce qu'elle trouve une espèce de petite boîte qui est en fait une intelligence artificielle qui s'appelle Sol, qui a survécu et qui vient du monde d'avant quelque part et qui connaît des tas d'infos. Et tu sens bien que cette boîte va l'aider à retrouver justement des traces de cette alimentation perdue, j'ai envie de te dire. Donc c'est assez marrant ce discours à la fois dystopie, fin du monde, lutte pour la survie et presque ce côté culinaire, quoi. Et cette référence à Nihai que j'aime beaucoup, je trouve que vraiment c'est un tome intéressant. Ça paraît, c'est un premier tome très intéressant. The Common Bread, Mujia, c'est chez Vega, donc associé à Dupuis. Ça sera en 4 tomes et je pense que c'est une série qui vaut le coup. Surtout que j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce Common Bread parce que ça me fait penser à Soleil Vert. Je sais
ouais,
pas si
depuis
tu
le début,
de ça.
Ouais, mais le fait qu'il explose, par contre, ça nous éloigne de.
Ah ouais, ça c'est les petits vieux ont peut-être été un peu irradiés, En tout cas, c'est vraiment. Je trouve qu'il y a vraiment dans le manga des très bonnes histoires de science-fiction. Je trouve qu'il y a une veine de science-fiction qui nous vient du Japon qui est vraiment hyper intéressante. The Common Bread. À vous, mon bon Roger.
Et puis, du coup, moi, je terminerai avec l'été de mes 17 ans, pas les miens, mais ceux de Bouzard, Kim Consigny, Fabrice R, Claire Fauvel, Alix Garin, Lucille Gomez, Jules, Guillaume Long, Lisa Mandel, Elisa Marodino, Leslie Play, Pochet, Prudy Spicer et Lewis Trondheim, paru aux éditions Bayard Graphique. Écoutez, j'ai toujours, quant à moi, adoré les ouvrages collectifs parce que ça permet de découvrir de nouvelles autrices ou de nouveaux auteurs, et c'est le cas, par exemple, parce que si je savais à quoi j'aurais droit en compagnie de Monsieur Bouzard ou de Monsieur Pocheb, de la bonne des grenades, Monsieur Bouzard, l'été de ses 17 ans, il travaillait dans un abattoir, ça va vous rappeler des souvenirs.
Ah, j'ai fait ça aussi, ouais.
Eh ben lui aussi.
Ah,
sauf qu'avec son pote, il se battait avec des vieux morceaux de bidoche qui traînaient. Voilà. Et quant à Pocheb, lui, il était gardien des terrains de badminton. Ça nous permet, au passage, de découvrir pourquoi
Et complexé.
Ouais, par le badminton.
Ah oui, c'est vrai qu'il a une passion pour le badminton.
Il a une passion pour le badminton. Et ça va permettre.
En fait, je trouve que c'est très Riyad Satouf, revenons sur notre adolescence perturbée.
Ouais, puis je sais pas. Ça permet aussi de voir des gens dans d'autres registres. Il y a Leslie Play, par exemple, qui, elle, j'en avais parlé parce que je crois que c'est elle qui avait illustré un truc, comment bien craignot sur les platistes, etc. Je ne sais plus quel ouvrage, si vous pouviez vérifier. En tout cas, parce qu'il n'y a pas la bio de.
Il y a Trondheim aussi, je vois.
Il y a Trondheim que nous connaissons. Vous imaginez, hein, Monsieur Trondheim, l'été est forcément sérieux.
Oui.
Et moi, j'ai découvert, par contre, je suis tout content parce que j'ai découvert une nouvelle autrice dont j'adore le trait, Elisa Marodino. Et dans son été, elle l'était de ses 17 ans, c'est génial. Elle nous parle, on ne sait pas trop si elle a 17 ans, en fait, elle paraît plus jeune que 17 ans, en tout cas, lorsqu'elle nous raconte cette histoire-là. Elle semble être, elle est d'ailleurs d'origine italienne, et avec la famille, ils allaient régulièrement chez le pépé en Italie, etc. Ils voyaient les cousins, les cousines, tonton, tata, etc. Et elle nous raconte, Elisa Marodino, elle nous raconte effectivement comment ça s'est passé l'été de ses 17 ans, lorsque, en revenant dans la maison du pépère, et bien avec sa sœur, en fait, le pépère, il est mort entre-temps. Il est mort et elle nous raconte ce manque, la différence. Mais il n'y a pas que ça. On voit aussi des choses très concrètes comme le niveau de propreté des plages, etc., avec les mégots, le plastoc, le gros merdier. Et elle a une façon très, très originale à elle, quant à elle, de représenter les êtres humains. Sous une forme qui pourrait paraître assez schématique, hein, tous les personnages ont une petite tête ronde. En fait, son coup de génie, c'est de jouer avec la souplesse les souplesses des membres, et notamment des doigts. Les doigts qui peuvent être très, très grands, ses jambes et ses bras, qui peuvent aller dans tous les sens. Elle s'en fiche, ça colle très bien. Et ce qui est censé représenter les yeux, le nez et la bouche sont superbement rendus de manière expressive à travers de simples petits traits. Elle a effectivement déjà, ça y est, tout. Enfin, c'est rare quand je dis ça, mais on a l'impression.
Vous trouvez son dessin très mature déjà, quoi.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. C'est plus ça. On a l'impression qu'elle, c'est bon, elle a déjà trouvé son trait, quoi. Enfin, vous pouvez me le dire, je peux vous prêter si vous voulez.
Ouais. Et ça renvoie pas mal à l'underground américain, je trouve aussi.
Alors voilà, est-ce que vous pourriez me dire, il y a un petit côté presque Jacovitti, vous savez, dans le fait que les personnages peuvent être un peu souples, un peu bizarres.
Ouais.
Regardez les doigts des personnages, regardez les bras, ils peuvent faire n'importe quelle taille, c'est pas grave. Il faut, de toute façon, ils sont dans l'action, ils doivent faire quelque chose. J'ai été totalement bluffé par.
Graphiquement, c'est très fort.
Hein?
Ouais.
totalement bluffé par ces petits personnages.
Elle n'a pas sorti l'album encore du tout. Vous avez regardé?
Ouais. Alors j'ai regardé et j'ai noté. Et j'ai perdu la feuille. Qu'est-ce qu'il est con.
Bon, on met 10 € sur Elisa Morodino.
Marodino.
Ouais, on met 10 euros sur elle.
Ouais. Moi, c'est ma grande découverte, en tout cas, de cet ouvrage. Que par ailleurs, bah oui, vous allez voir l'été de. J'ai bien aimé l'été de 17 ans de Fabrice R. Vous savez comment il est. Mais je vous dis, on retrouve comment des. Jules, mais qu'on connaît, Lucille Gomez, que je connaissais moins, et des Slipley qui s'est, comment paraît, prêté au jeu. C'est très agréable. Chez Bayard Graphique, à l'époque, Bayard Graphique existait.
Ah.
Alors peut-être que c'est aussi Bayard qui publie la revue Phosphore.
Qui a fait le lien entre tous ces auteurs, apparemment.
Ouais, parce qu'il y a une petite au début, c'est marqué « Bayard Graphique remercie la rédaction de Phosphore pour sa collaboration fructueuse et enthousiaste, en particulier Stéphane Gouillet qui a invité chaque été les autrices et auteurs de ce livre à livrer le souvenir de l'été de leurs 17 ans ». Voilà, donc à mon avis, c'est des histoires qui sont parues avant dans Phosphore.
Tout le monde devrait être en vacances.
Voilà.
c'était d'Andy Warhol's Every Day Should Be a Holiday. Tous les jours devraient être un jour de vacances. Bah, c'est un peu le cas, puisque c'est la dernière émission de la saison, on va dire, 22-23.
Tout à fait.
Nous, on est calés sur le calendrier scolaire.
Tout à fait, Thierry.
Donc, on va vous laisser en vacances. C'est pour ça qu'on vous souhaitait des bonnes vacances. Ah, je tiens à dire un dernier truc. Oui, je remercie Christophe du Luxembourg d'avoir envoyé une chronique. Car ah. Oui, n'oubliez pas, maintenant, vous pouvez nous envoyer vos chroniques. Il suffit de regarder sur notre blog, vous trouvez l'adresse.
Je remercie également Marie-Jo et messieurs Cheval Fougueux.
Ouais, nos principaux contributeurs pour le moment. Ouais. Il avait envoyé une chronique pour Evol, le tome 1, le dernier manga d'Atsushi Kaneko qui est paru chez Delcourt. Malheureusement, je l'ai déjà chroniqué. Mais je partage son avis, c'est vraiment une super BD. Et puis, je suis encore plus avec lui quand il écrit à la fin. Continuez comme ça, vous êtes super.
Voilà.
Voilà. Il va falloir maintenant patienter jusqu'en septembre.
Ah oui, hein, pour le moins.
Voilà, on est quand même très fatigué et on a envie de soleil et de détente. Mais on vous retrouvera avec plaisir.
Avec
plaisir et humour. À bientôt Roger, à bientôt chers auditeurs. 457e émission de Plume et Pinceau. Au revoir.